franceinter.fr.
À l'instant et sans surprise, Manuel Valls annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. François Bayrou, c'est une nouvelle importante, attendue.
Dans la dynamique d'Emmanuel Macron, il y a la force du rassemblement. Que des gens qui ont des responsabilités et des responsabilités en conscience disent écoutez, on peut pas, il faut en finir, il faut qu'on tourne la page, on peut pas accepter ces dérives et ces risques. Alors je trouve, oui, que ce signe de rassemblement que Emmanuel Macron porte est très important et un facteur d'espoir pour l'avenir.
Et le geste de Manuel Valls, donc.
C'est un geste qui est sûrement la conclusion d'une réflexion très profonde et un peu désabusée sur l'état de la gauche aujourd'hui en France.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
La revue de presse, c'est d'abord le jour J pour le Royaume-Uni.
Brexit Day One, titre les Échos ce matin. Et dans la presse britannique, on lit plus que jamais peut-être la ligne éditoriale des quotidiens aux une qu'ils proposent en ce jour historique. Un puzzle d'abord de l'Europe aux pièces manquantes pour le Guardian. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne saute dans l'inconnu. The Times publie la photo rendue publique par le 10 Downing Street de Theresa May apposant sa signature sur le document qui va bouleverser le destin du pays. L'histoire nous regarde. Attentisme et appréhension, semble-t-il. Les tabloïds, Daily Express, Daily Mirror affichent plus clairement leur contentement. Chère Union européenne, il est temps de partir. Time to go. Le Daily Mail, deuxième tirage britannique après The Sun, plastronne carrément avec un grand freedom, liberté, à sa une. Ça y est, nous sommes dehors, se réjouit-il. Une sobre, somme toute. Si on la compare à celle d'hier qui a provoqué la polémique dans tout le pays, on y voyait Theresa May et la première ministre écossaise, toutes deux en jupe, assises, avec ce titre « Peu importe le Brexit, qui a gagné le concours de jambes ?» S'interrogeait fort légèrement le quotidien et fort sexistement, si vous me permettez, le néologisme. Oui. Alors après le Day One, qu'est-ce qui se passe ? Libération propose un traitement intéressant pour démontrer qu'en fait on n'en sait fichtre rien. Un peu à la façon de René et de son « Smoking, no smoking », Sonia Del Salle-Stolper et Jean Quatremer se sont projetés le 30 juin 2024, imaginant deux scénarios possibles, l'un où tout roule pour le Royaume-Uni et l'autre où tout s'écroule. Et tout dépend évidemment de la façon dont les négociations avec l'Europe, qui commencent aujourd'hui, se seront déroulées. Tout roule, Londres a obtenu tout ce qu'il réclamait, l'accès au marché unique mais sans la libre circulation des personnes, une facture de frais de sortie raisonnable. Boris Johnson a été viré du Foreign Office pour être recasé au Daily Telegraph, pour apaiser tout le monde. Résultat, en 2024, l'économie du Royaume est florissante, les Écossais ont même renoncé à leur indépendance, les accords bilatéraux avec les pays du Commonwealth se sont multipliés, Theresa May, toujours première ministre, a fait du Brexit un succès. Tout s'écroule. Ah ben cette fois, le 30 juin 2024, le Premier ministre, David Miliband, arrive au Conseil des ministres européens pour demander à ses ex-partenaires, narquois, voire rigolards, de réadmettre son pays en leur sein afin de sauver les griffes du FMI. Rien ne s'est passé comme prévu. Les Européens sont restés unis face aux exigences jusqu'au boutistes de Theresa May. Conséquence, banques et entreprises ont perdu l'accès au marché unique, la City s'est écroulée, la livre a chuté, l'inflation a explosé. Et l'impensable est arrivé. En demandant son retour dans l'Union, le Royaume-Uni sait qu'il va même devoir accepter l'euro. Uchronie à rebours, en quelque sorte, dans Libération ce matin, dont on relira les scénarios en 2024 donc, et on saura alors quel était le bon.
En France, Hélène, on s'interroge aussi sur l'après.
Sur l'après, premier tour de la présidentielle chez nous. Dans l'opinion, Ludovic Vigogne visite lui aussi le scénario du pire pour la droite française, scénario noir, dans lequel François Fillon est éliminé au premier tour et où la droite est donc menacée de disparition. Il appelle ça le Black Swan, littéralement le signe noir en anglais. Une hypothèse tellement sombre qu'on a du mal à y croire tant ses conséquences seraient exceptionnelles. Aujourd'hui, toutes les pièces de ce Black Swan commencent à se rassembler, écrit-il, et les questions concrètes à se poser. Quelles consignes de vote à donner dans l'entre-deux-tours, dans l'hypothèse Macron-Le Pen ? Les responsables, les Républicains, craignent par avance l'effet de souffle de l'affrontement qui placerait de facto la présidente du Front National comme patronne de l'opposition. Comment conserver, se demande-t-il, l'unité de la famille en vue des législatives ? Sans plus de chefs reconnus, et puis surtout avec des électeurs de droite, qui plus est, qui auront sans doute le sentiment de s'être fait voler l'élection, combien préféreront alors soit rester chez eux, soit même voter Le Pen. Une tectonique des plaques qui effraie dès aujourd'hui la droite française. Mais c'est peut-être sans compter l'effet de l'interview Reconquête, clame ce matin Valeurs Actuelles. Interview de François Fillon, du candidat Fillon. François Fillon qui affirme en une, oui, ma candidature est révolutionnaire. La révolution du bon sens, poursuit-il. Alors que faire dans l'hypothèse d'un second tour avec Marine Le Pen? Eh bien, l'Église française a tourné hier autour de cette même question, nous raconte La Croix ce matin, et a apporté à peu près les mêmes non-réponses. Doit-elle prendre position entre les deux tours? Et si oui, faut-il citer nommément le Front National? En 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié, l'évêque de Saint-Denis avait tonné « Le FN est infréquentable ». Désormais, écrit Louis Bémont de Senneville, plus aucun responsable catholique ne se risquerait à une condamnation aussi directe. D'abord parce que la stratégie de l'époque n'a pas beaucoup fonctionné, mais aussi parce que la digue longtemps dressée entre catholiques et FN s'est progressivement effritée, explique le journaliste. En aparté, un évêque glisse même « Je ne peux pas nommer le FN, c'est impossible ». 40% des fidèles de mon diocèse votent pour lui. Et puis plus drôlatique si l'on peut dire, même si c'est sérieux, on parle d'argent quand même, les conseils d'un gérant de patrimoine à ceux qui appréhendent une victoire du Front National au second tour. Cette fois, un journaliste du Parisien s'est fait passer pour un épargnant fortuné et inquiet. Alors je vous rassure, tout est prêt. Un portefeuille anti-crack lui est immédiatement proposé. Il a rapporté 50% en 6 ans pendant la crise grecque. Et puis si vraiment il tient à placer son bas de laine hors de la zone euro, eh bien là encore il y a un remède. Acheter de l'or suisse, lui conseille son gérant avisé, sur le ton du bon docteur de famille prescrivant un anxiolytique à son patient, dit le journaliste. C'est dire si quand on est riche, on n'a jamais vraiment de quoi s'inquiéter.
On termine en bref, Hélène.
Avec l'affaire Charb. La Voix du Nord y revient. Ce matin, le quotidien régional avait révélé ce week-end que la lecture spectacle du texte de Charb, lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, avait été déprogrammée de plusieurs salles de la région par crainte des débordements, avançaient les organisateurs. Sur ordre du MRAP et de la Ligue des droits de l'homme, accuse ce matin Gérard Biard dans Charlie Hebdo qui dénonce leur complaisance avec le totalitarisme islamiste. La LDH nationale s'en défend, elle se désolidarise de sa section lilloise et condamne à son tour toute censure. Et le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, se dit prêt, lui, à appuyer toute demande pour que les conditions de sécurité soient assurées et même prêt à mettre à disposition une salle de la région. Culture, dit-il, ne rime pas avec censure. Et puis je termine avec un regret, celui de ne pas pouvoir vous raconter l'enquête de Denis Fensbilder dans Les Échos quand la pub vous regarde. En fait, ça fout la trouille, on parle de capteurs planqués dans des photomatons, dans des poubelles, qui vous scrutent discrètement pour vous envoyer illico des pubs pour les produits dont vous ne savez même pas que vous en avez besoin.
Ah, mais c'est
en
les fait, écrans mobiles, oui.
Les écrans mobiles, voilà, c'est moderne, c'est high-tech, mais ça fait peur, effectivement. Il paraît que la France, grâce notamment aux garde-fous mis en place par la CNIL, résiste un petit peu, mais il paraît aussi que ça ne va pas durer. C'est donc à lire in extenso dans Les Échos.
Merci à vous Hélène Jouan. Bonjour Nicole Ferroni.
Bonjour Monsieur Cohen. Bon écoutez, je suis ravie d'avoir de nouveau une fois face à moi Monsieur Bayrou, mais comme il y a quand même une routine qui s'installe, j'ai prévu de quoi casser un petit peu le tout.
Il faut casser les routines.
Voilà, exactement.
Exactement, vous serez là à 9h05 dans un instant, retour de François Bayrou.